Donc bonjour, on va démarrer cet après-midi pendant que les derniers continuent à arriver et à s'installer, avec effectivement le fait que c'est parfois un petit peu compliqué de rentrer, de faire rentrer autant de monde dans cette salle. Voilà, un jour d'ouverture au public. Alors donc bienvenue pour cet après-midi. Donc si vous avez suivi le programme, et ce programme qui a été préparé donc principalement par Philippe Charrier, nous suivons un peu un ordre chronologique. Donc ce matin nous avons eu une partie historique brillamment réussie par historique et subjective brillamment réussie par Dominique, et nous avons parlé de l'actualité des bibliothèques en France. Nous nous tournons cet après-midi et demain matin vers ce que Philippe Charrier a appelé le futur immédiat. Donc demain matin, forum. Philippe vous en parlera ce soir pour vous rappeler les questions d'organisation et pour l'arrivée demain matin. Et cet après-midi, nous tenions beaucoup à ce que nous puissions un peu ouvrir notre horizon et regarder ce qui se passe dans les pays étrangers. Et donc nous avons choisi deux projets précisément, mais qui à chaque fois ne parle pas seulement d'un bâtiment, mais d'une stratégie de ces bibliothèques. Et pour la dernière présentation, qui sera celle de Barcelone, on n'est pas spécialement sur un bâtiment, mais sur vraiment la stratégie que développe maintenant le réseau des bibliothèques de Barcelone, qui est un très grand réseau dont Esther vous parlera en fin d'après-midi. Alors nous allons commencer avec la bibliothèque, les projets de la bibliothèque Gabriel Roy et de la Maison de la littérature à Québec. Nous irons ensuite faire un tour en Norvège et nous finirons donc par Barcelone. Voilà, donc ce n'est pas une table ronde, hein. Si vous avez bien regardé le programme, ce n'est pas annoncé comme ça, c'est bien trois présentations. Et à chaque fois, nous allons essayer de vous laisser un peu de temps à la fin des présentations pour poser des questions. Voilà, donc c'est Marie Goyette qui commence ce petit tour, alors pas vraiment du monde, on n'a pas réussi, on a pensé à un moment avoir une bibliothèque d'Asie pour nous apporter carrément un air d'Extrême-Orient, mais voilà, on est déjà très content d'avoir ces trois présentations. Donc Marie est depuis 1990 la directrice de la bibliothèque Gabriel Roy à l'Institut canadien du Québec, où elle cumule ses fonctions avec celles de la direction de l'animation culturelle et du développement des publics sur le réseau de la bibliothèque de Québec. Alors, l'Institut canadien, c'est un organisme culturel à but non lucratif qui a été fondé à Québec en 1848, donc avec nos 40 ans, on est vraiment petits joueurs. Et donc l'Institut canadien, c'est le gestionnaire de la bibliothèque de Québec. Alors Marie a également été en charge, et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on était intéressé par ce projet, elle a été en charge du projet de développement de la Maison de la littérature, de sa conception jusqu'au plan de fonctionnement, jusqu'au plan organisationnel de cette institution. Et elle a contribué à la création de plusieurs programmes, comme la résidence d'écrivains, le Festival Québec en toutes lettres, un programme de développement de la lecture auprès des jeunes qui s'appelle Une naissance, un livre, un programme qui s'appelle Tendre la main pour les apprenants adultes en formation ou les nouveaux arrivants à Québec, un programme intergénérationnel, donc un certain nombre de programmes destinés au développement de la lecture. Donc, en tant que directrice du développement des publics de la Bibliothèque de Québec, elle développe la stratégie de cette bibliothèque. Et pour ce faire, elle entretient des liens étroits avec des nombreux partenaires dans différentes sphères du développement social, culturel, éducationnel de la ville et de la région. Donc elle va vous en parler, bien sûr, dans sa présentation. Enfin, il faut préciser qu'elle est présidente de l'Association des bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, voilà, et qu'elle est également vice-présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Donc Marie va vous parler de la Maison de la littérature, et aussi, vous allez certainement le dire, Marie, j'ai oublié de le dire, la nouvelle bibliothèque Gabriel Roy ouvrira en 2021, et la nouvelle bibliothèque d'Oslo ouvrira en 2020. Donc on est bien sur du futur quasi immédiat. Voilà, la parole est à vous, Marie. Merci.
Merci et bonjour à tous et à toutes. Un grand merci à toute l'équipe de la Bibliothèque publique de l'information pour votre accueil, votre invitation. Je vais vous parler beaucoup de planification stratégique à la Bibliothèque de Québec aujourd'hui, à l'intérieur duquel vous allez retrouver les différents projets et programmes et stratégies dont on a parlé dans le mot de présentation. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Inventer l'avenir, plonger dans l'inconnu ou patiente construction ». Évidemment, on en a parlé déjà ce matin, il faudrait une boule de cristal pour savoir où sera notre monde dans 40 ans. Donc, encore plus compliqué pour nous de dire où seront les bibliothèques et la lecture publique dans 40 ans. Évidemment, on est dans un monde en changement constant et on doit s'adapter au fur et à mesure. Donc, évidemment, vous allez comprendre que pour moi, construire le futur, c'est une patiente construction, cette construction de l'avenir. D'autant plus que j'ai pas vraiment le goût de me poser la question où moi-même je serai dans 40 ans. Quels seront mes besoins personnellement en tant que citoyenne approchant le centenaire dans 40 ans? C'est une question que je n'ai pas voulu aborder dans ma présentation. J'ai seulement un message à transmettre ici à nos jeunes collègues, les plus jeunes de cette Assemblée. Investissez, s'il vous plaît, dans les services aux aînés. C'est un gage de réussite. Alors, voici la structure de ma présentation. D'abord, justement, un petit mot. Qui sommes-nous? La Bibliothèque de Québec et l'Institut canadien. Ensuite, les cinq grandes étapes de développement depuis 1978 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui nous a fait avancer dans nos projets? Ensuite, les grands projets d'avenir sur lesquels nous sommes déjà en action. Et un petit guide de survie pour assurer une certaine pérennité de notre institution. Alors, la ville de Québec, c'est une population de 545 000 habitants. Comme vous le savez, la capitale du Québec, une ville qui est francophone à 95%, qui a un taux de scolarité légèrement au-dessus de la moyenne québécoise. Avec une population vieillissante, on va y revenir. Un taux de chômage de 4,4%, donc on parle presque du plein emploi. Ce qui fait que la Ville de Québec est à la recherche active d'immigrants pour venir combler certains besoins au niveau de la communauté. C'est sûr, les besoins de diversité culturelle, les besoins de diversité linguistique, de diversité de compétences, etc. Évidemment, ça, c'est le volet de la carte postale de la Ville de Québec, une très belle ville d'ailleurs, que je vous invite à venir visiter. Mais quand on fait le portrait de sa communauté, il faut aller au-delà des moyennes, au-delà des données les plus générales pour aller vraiment faire un portrait statistique de notre communauté pour savoir quelles sont les tendances lourdes au niveau social, au niveau économique, au niveau éducatif, etc. Et faire ressortir, faire parler les chiffres finalement pour pouvoir dégager des orientations à moyen et long terme. Alors, à titre d'exemple, à Québec, il y a 132 000 personnes de 15 ans et plus qui ne détiennent aucun diplôme. Et près de 1 000 jeunes par année n'obtiennent pas de diplôme à la fin de leur scolarité. Ce qui fait que les besoins en éducation de base et en littératie dans notre communauté demeurent un enjeu toujours essentiel et prioritaire pour une bibliothèque publique comme la nôtre. Toujours dans le profil de la communauté, vous avez la pyramide des âges au Québec en 1971. Et nous, ici, au Québec, bien, pas ici, là, mais au Québec, la pyramide se transforme, change de forme, ça devient une boule. Alors, je ne sais pas ici, en France, quelle est la tendance lourde, mais le vieillissement de la population, c'est un phénomène extrêmement important chez nous. Et déjà, depuis 2015, au Québec, il y a autant de personnes de 65 ans et plus que de personnes de 19 ans et plus. Et en 2051, il y aura plus de citoyens de 65 ans et plus que de jeunes. Alors ça va représenter des défis assez importants et des pressions sur nos organisations dans le sens où chacune des catégories de population, des catégories d'âge, va exercer un poids démographique à peu près équivalent les unes aux autres et ça va ajouter une difficulté dans l'établissement de nos priorités d'action, selon moi. Et on sait tous, on en a parlé ce matin, le financement n'est souvent pas à la hauteur de la multiplication des défis auxquels on doit s'attaquer. Évidemment, donc, vous allez me dire, c'est le béaba de faire le profil sociodémographique de sa communauté pour pouvoir se projeter le plus loin possible dans le temps. C'est vrai que c'est le béaba, mais dans notre quotidien, souvent, on ne fait pas cet exercice-là. Déjà, quand on fait un exercice rétrospectif sur 3 ans, c'est déjà beaucoup de travail, mais on ne peut pas faire l'économie de faire parler les chiffres pour s'orienter dans l'avenir. Donc, je suis toujours dans « Qui sommes-nous? » L'Institut canadien de Québec, on en a parlé tout à l'heure. Donc, nous sommes gestionnaires de la Bibliothèque de Québec depuis sa création en 1897. Et nous sommes liés par une entente contractuelle avec la Ville de Québec qui finance tout le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec. Notre organisme est constitué d'un conseil d'administration de 15 administrateurs bénévoles qui sont des citoyens recrutés selon leur profil de compétences, des compétences dont on a besoin pour développer et administrer la bibliothèque. Nous avons 300 employés, pas tous à temps plein par contre, et 500 bénévoles qui participent activement à la desserte là, et au service à la population. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce mode de fonctionnement-là est probablement peut-être inexistant en France, mais c'est la norme partout en Amérique du Nord, sauf au Québec, qui a copié un petit peu le modèle français où les bibliothèques relèvent en général de la municipalité, de la ville, tandis que nous, on travaille pour un organisme à but non lucratif. La Bibliothèque de Québec, en chiffres, pour une population de 545 000 habitants, on parle de 25 établissements, de 198 000 abonnés. Pour nous, c'est le terme qu'on utilise, puis je vous dirais que j'aime beaucoup cette appellation des abonnés parce que selon moi, la bibliothèque publique, c'est l'institution culturelle qui suscite le plus le sentiment d'appartenance chez les citoyens. Alors, les gens viennent fréquemment, régulièrement, toutes les autres institutions culturelles nous envient ce lien de proximité avec la population. Donc, on parle d'environ 3 millions d'entrées par année, 4 millions de prêts, etc. C'est une bibliothèque aussi, un réseau de bibliothèques très bien structuré et très, très animé. En 1996, déjà, nous avons eu le mandat du maire de Québec de l'époque, M. Jean-Paul Lallier, de déployer à l'échelle du réseau, dans tous les quartiers, une programmation culturelle. Et nous avons ajouté au fil du temps les visites scolaires également dans cette programmation. Aujourd'hui, tout à l'heure, on va parler de la vision du développement de la Bibliothèque de Québec qu'on a adoptée en 2013. Pour nous, maintenant, la façon dont on présente le réseau de la Bibliothèque de Québec, d'abord, c'est un réseau, c'est une bibliothèque avec 5 composantes. Une bibliothèque centrale Gabriel-Leroy, une bibliothèque virtuelle, la Maison de la littérature, la bibliothèque hors les murs, plus ou moins existante présentement, ainsi que les bibliothèques de proximité. Donc, c'est notre façon maintenant d'aborder le développement du réseau. Quelques images pour vous montrer le type d'établissement que nous avons. Nous avons la particularité, vous allez le voir au fil des images, d'aménager des bibliothèques, parfois dans des églises désacralisées, qui sont souvent des monuments historiques qu'on veut conserver et mettre en valeur. Mais la majorité des bibliothèques du réseau ont été construites à partir des années 1980, donc ce sont des équipements relativement modernes. Et disons qu'on en a une dizaine qui ont une superficie de 600 à 1000 mètres carrés. Et nous avons également de grands établissements au-dessus de 2500 mètres carrés jusqu'à 4500 mètres carrés. Donc, 3 grands établissements. Le dernier qui a été inauguré, c'est en haut, dans l'église, dans cette église désacralisée. C'est la bibliothèque Monique Corriveau, un équipement de toute beauté. La population s'est appropriée cette bibliothèque-là, c'est incroyable, l'achalandage de cette bibliothèque-là, autant par les aînés, les adolescents, les familles, c'est vraiment un succès phénoménal. Quand on développe un service qui répond à un besoin, bien, la population est au rendez-vous, puis les élus sont vraiment très fiers de cette performance. Et nous avons 2 autres bibliothèques de plus grande taille qui offrent une plus grande diversité, naturellement, de services. La bibliothèque Gabriel-Leroy, je vais parler de notre projet tout à l'heure. Elle a été inaugurée en 1983. Je vais parler tout à l'heure du grand projet que nous avons de rénovation. Alors, c'était la première partie succincte de présentation. Maintenant, les 5 grandes étapes de développement de la Bibliothèque de Québec depuis 1978. Alors, vous avez ici une image à gauche de la Bibliothèque centrale en 1978. Et de la Bibliothèque centrale aujourd'hui. Alors, le réseau moderne des bibliothèques publiques au Québec s'est développé dans les années 80. Donc, c'est un phénomène quand même assez récent, la bibliothèque publique moderne. On a réussi à rejoindre seulement 2 générations de Québécois. Donc, c'est normal qu'on ait encore à travailler sur l'image de la bibliothèque, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, ce plan directeur Évidemment, à l'époque, nos bibliothèques, c'était des bibliothèques installées dans de petits espaces désuets, dans des écoles à moitié fermées, des centres communautaires, etc. Et la Ville de Québec, sous l'impulsion du maire Jean Pelletier, a décidé de doter toute la Ville de Québec d'un réseau complet de bibliothèques. Et donc, on a planifié sur 20 ans la construction de 11 bibliothèques avec les collections conséquentes, etc., ce qui fut fait dans le temps prévu, 11 bibliothèques en 20 ans. Alors, quand on parle d'une vision politique, d'un engagement politique, évidemment, pour poser de tels grands gestes, ça prend nécessairement plus que la vision du bibliothécaire, ça prend la vision de toute une communauté. Alors, dans la foulée de ce plan directeur, nous avons inauguré en 1983 la Bibliothèque centrale Gabriel-Leroy, un équipement de 8 300 m². J'avoue qu'on a deux bibliothèques qui nous ont inspirées à l'époque, la BPI et la Bibliothèque métropolitaine de Toronto, qui nous avaient... Donc, le maire s'est promené avec le directeur de la bibliothèque un peu à travers le monde pour voir les bibliothèques les plus innovantes à cette époque-là pour doter le centre-ville de Québec d'un équipement majeur qui allait relancer non seulement la lecture, la culture, mais également un quartier, un centre-ville au complet. Alors, dès le départ... Gabriel-Leroy était multi-support avec des films, des disques, etc. On avait même un ordinateur. Et puis, un secteur jeunesse très, très, très dynamique. Donc, cette bibliothèque-là était située en milieu défavorisé. Alors, dès le départ, on a voulu une bibliothèque inclusive. Cette bibliothèque a eu un impact majeur, non seulement à Québec, mais sur toute la lecture publique au Québec, provoquant un effet de levier et la preuve éclatante qu'une bibliothèque publique pouvait connaître un succès phénoménal, et ce, même dans un milieu défavorisé. Aujourd'hui, nous avons pu comptabiliser 19 millions d'entrées depuis la création de cette bibliothèque. Alors ça, c'était la deuxième grande étape de développement du réseau. La troisième grande étape du réseau, en 2002, les fusions municipales. On a parlé de structure territoriale ce matin. Nous, au Québec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le gouvernement du Québec, en 2002, a décrété des fusions municipales partout au Québec. Et nous, ça nous a touchés à Québec. Toutes les 13 municipalités qui composaient à l'époque la communauté urbaine de Québec ont été fusionnées par décret du gouvernement du Québec pour former la nouvelle ville de Québec, la nouvelle grande ville de Québec. Alors, vous imaginez qu'au niveau des structures de bibliothèques, il y avait énormément de disparités de systèmes, de cartes, de conditions d'accès, etc. Il a fallu harmoniser tout ça pour le bénéfice, à mon avis, des citoyens. L'importance des bibliothèques était très élevée. Le nouveau conseil municipal de la nouvelle ville de Québec a adopté son premier règlement, c'était la constitution de cette nouvelle ville-là, et son règlement numéro 2, ça a été d'abolir les frais d'inscription aux bibliothèques pour tous les citoyens et de créer une carte d'abonnement unique qui donnait accès à l'ensemble des bibliothèques qui se trouvaient sur les territoires de cette nouvelle ville de Québec. Alors, cette uniformisation-là a amené évidemment un accès élargi à l'ensemble de la population et en abolissant les barrières intermunicipales, parce qu'elles étaient énormes et incontournables à cette époque-là. Donc, cette fusion municipale nous a amené la création d'un vrai réseau de bibliothèques qui fonctionne de façon structurelle et harmonisée, très bien structurée, qui a contribué grandement, selon moi, à l'équité dans l'accès aux services. Ce fut un très grand bond en avant, grâce à cette gratuité, mais grâce aussi à la force d'un réseau. 10 ans plus tard, nous avions augmenté de 27 % le nombre d'abonnés et de 22 % les prêts. Ce qui fait que partout au Québec, on a vu la création de plusieurs réseaux de bibliothèques suite à ces fusions municipales, ce qui nous a donné beaucoup, beaucoup de force, augmenté, selon moi, l'expertise et augmenté aussi l'efficience de nos fonctionnements. Et ces mesures d'efficience nous ont permis d'injecter des ressources dans l'amélioration des services. Quatrième grande étape de développement, Québec Horizon Culture, en 2009. Québec Horizon Culture, À un moment donné, on a une vision, on a un plan, on sait où on veut aller, mais il faut mobiliser les acteurs principaux de notre milieu, non seulement les élus, mais les ministères. Il faut aussi que les investissements publics dans nos institutions soient, disons, acceptés, qu'il y ait une forme d'accessibilité sociale, autant des citoyens qui sont des contribuables que même les autres organismes culturels de notre milieu. Donc, il y a eu un momentum très, très fort qui a été créé en 2009 dans notre région, à l'initiative de la Ville de Québec, qui a organisé avec le ministère de la Culture et des Communications un grand rassemblement du milieu culturel pour lancer ou annoncer les grandes orientations, les grands projets culturels régionaux qui allaient être soutenus par les instances publiques. Et cet événement fut une véritable rampe de lancement pour l'Institut canadien de Québec, qui s'est vu endosser et appuyer dans sa vision de doter la Ville de Québec d'un dispositif unique de développement de la lecture et de l'écriture, s'adressant autant au grand public qu'au milieu professionnel littéraire. C'est là que mes collègues, à un moment donné, m'ont dit « Marie, attention à tes rêves, ils peuvent se réaliser. On est pris pour les mettre en œuvre, puis c'est beaucoup de travail. » Alors, il y a 4 mesures qui ont été annoncées lors de cet événement. D'abord, première ovation en art littéraire, c'est un programme d'aide financière pour la relève littéraire professionnelle à Québec parce qu'on voulait amener de la vitalité culturelle dans notre ville. Alors, on s'est vu confier la mission de développer cette mesure-là avec le financement de la Ville de Québec. Ensuite, on a créé le Festival Québec en toutes lettres. On s'est inspiré, vous vous en rappellerez peut-être, de Paris en toutes lettres. Donc, on a créé ce festival-là et cette année, la Ville l'a reconnu comme l'un des grands événements culturels de la Ville de Québec avec un financement accru. Le projet de la Maison de la littérature a été annoncé dans le sens que le financement a été attaché entre la Ville et le ministère de la Culture et on a pu par la suite lancer le concours d'architecture. Et le 4e projet où les ententes étaient conclues concernait la rénovation de Gabriel Roy qui a été un projet beaucoup plus long à mettre en œuvre. Une autre phase de développement extrêmement importante pour la Bibliothèque de Québec, ça a été l'adoption de la vision du développement de la Bibliothèque de Québec 2013-2020. Vous pouvez trouver ce texte dans le site Internet de la Ville de Québec. Évidemment, ce document a été écrit en 2012, donc il nécessiterait déjà à mi-parcours une certaine mise à jour. Donc, dans ce document, ce qu'on retrouve, ce sont les grandes orientations de la Bibliothèque de Québec. Nous avons écrit sa mission. On n'avait jamais écrit la mission de la Bibliothèque de Québec. Donc, on s'est entendu entre l'Institut et la Ville de Québec sur la mission de la Bibliothèque, les orientations, les axes de développement. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout dans cette vision d'avenir, c'est que le citoyen est au centre de la vision. Parce que la finalité de tout ça, c'est d'augmenter l'impact de la bibliothèque dans la population avec une cible chiffrée qui est de rejoindre 40 % de la population en termes d'abonnement. Je ne vous conseille pas nécessairement de retenir une cible en pourcentage parce que malheureusement, la population ne cesse d'augmenter et c'est comme si la cible devenait un mirage là, qui recule à chaque année. Alors, on vit avec. Mais l'important, c'est que cette vision-là a été portée par l'élu responsable de la culture au conseil municipal qui siège au comité exécutif de la Ville de Québec. Et cette vision d'avenir, cette vision de développement a été entérinée à l'unanimité par le conseil municipal. C'est un document qui se distingue du plan directeur de la façon suivante, c'est que le plan directeur, c'était une série de gestes concrets structurants qu'on allait poser. On allait créer 11 bibliothèques, on allait acheter tant de livres, etc., dans une période X. Tandis que la vision de développement, c'est un document, a priori, qui est moins engageant sur le plan politique et budgétaire, mais toutefois, c'est quand même un levier pour nous, les gens de la bibliothèque. Parce qu'à chaque année, nous déposons notre plan d'action annuel et le plan d'action doit être branché directement sur l'accomplissement des objectifs de la vision. Et évidemment, si on veut atteindre les cibles, il faut avoir les moyens de le faire. Donc, il y a une forme d'engagement quand même mutuel entre la Ville de Québec et l'Institut canadien à ce niveau-là. Donc, on est à 36 % du taux d'abonnement. on verra si on va atteindre la cible, mais si je vais vous expliquer, c'est pas certain qu'on va atteindre la cible d'ici 2020. Alors, les 11 axes de développement, évidemment, ça fait beaucoup d'axes de développement. Quand vous faites un plan d'action, il y a un gros risque d'éparpillement. Mais pour nous, c'est important de montrer aux autorités municipales que développer une bibliothèque, ce n'est pas seulement le béton, ce n'est pas seulement de construire. Il faut jouer sur plusieurs facteurs pour rejoindre le public et répondre aux besoins de la population. Alors, notre premier axe de développement, c'est de développer une bibliothèque virtuelle de pointe avec l'ambition d'être un chef de file dans le prêt du livre numérique francophone. Avec le projet de Gabriel Leroy, on amorce ce gros chantier de la bibliothèque virtuelle de pointe cette année. Deuxième axe, c'est de se maintenir, parce que je crois qu'on l'est déjà, en tant que carrefour incontournable des arts, des lettres et de la culture, chacune des bibliothèques dans son milieu local. Comme je le disais tout à l'heure, depuis 1996, qu'on a ce mandat de jouer le rôle de mini-centre culturel jusqu'à un certain point dans nos milieux. Donc, c'est de maintenir cette orientation-là qui est très importante pour la Ville de Québec. C'est de concentrer, d'être un service culturel de première ligne dans notre milieu. Troisième axe, offrir des collections diversifiées et accessibles. Évidemment, ce qui tend ça, on a adopté mise à jour notre politique de développement des collections qui est en ligne sur le site de la Bibliothèque de Québec et fixer un taux de renouvellement des collections qui permet d'être toujours actuel. Et nous sommes à travailler sur un plan de mise en valeur des collections avec un pourcentage des collections qui devront être présentées de face, etc. Le quatrième axe concerne les espaces physiques accueillants. Il y a eu quand même de nouvelles construction dans les dernières années, mais surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a un parc immobilier qui est quand même assez vaste et qui nécessite des rafraîchissements permanents. Donc, la Ville a créé une enveloppe spéciale. À chaque année, on priorise 2 ou 3 établissements, puis on fait un travail de mise à niveau, disons, au niveau de l'aménagement intérieur principalement. Le cinquième axe, c'est la bibliothèque hors les murs. Quand je vois ce qui se fait à Rennes et au Havre, disons qu'on n'a pas commencé vraiment encore. Le sixième axe, c'est la promotion de la lecture et des bibliothèques. On l'a dit tout à l'heure, c'est important de se faire connaître. Il y a encore beaucoup de perceptions négatives, même dans la population, par rapport aux bibliothèques. Les gens qui les ont connues tout jeunes et qui ne savent pas ce que c'est devenu, etc. Donc, on a créé un plan de communication qui est renouvelé annuellement autour de la bibliothèque et de ses programmes et services. On a l'ambition, dans l'axe 7, de développer la bibliothèque en tant que guichet d'information privilégié d'accès au savoir. Le premier mandat que nous a donné la Ville de Québec, c'est de devenir un centre d'information et de référence pour les nouveaux arrivants. Alors, nous travaillons à ce projet avec une chargée de projet pour les prochaines années. Le huitième axe, c'est celui sur lequel on a le plus travaillé. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Donc, la nécessité d'actualiser nos services à l'usager pour être toujours pertinent et utile. Le neuvième axe concerne le capital humain, un capital humain mobilisé. On ne parle pas ici seulement du personnel, on parle aussi des citoyens. Quand les citoyens nous appellent et nous disent « moi, je suis retraité de l'Université Laval et je veux m'impliquer dans ma communauté, avez-vous quelque chose à m'offrir? » Puis quand la réponse est non, c'est vraiment inacceptable. On a créé des programmes où les citoyens peuvent s'impliquer en tant que bénévoles. Le capital humain mobilisé aussi, c'est le développement des partenariats qui est essentiel pour rejoindre de nouveaux pans de la population. Et nous avions, je vais en parler un peu tout à l'heure, évidemment, un axe de développement complet sur la Maison de la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça la première année? On s'est dit par où on commence, etc. Donc, on s'est dit, on retourne sur la finalité première, c'est-à-dire le développement des publics. Alors, on a fait plusieurs analyses à partir de notre base de données, parce qu'évidemment, on a des bases de données incroyables, on peut savoir plein de choses sur nos usagers, croiser des données, etc. Et on a fait plusieurs constats qui nous ont permis d'adopter une stratégie de développement de public qui est partagée par l'ensemble des bibliothécaires du réseau et qui influence nos plans d'action annuels. dans le plan d'action annuel, toutes les actions qui auront un impact direct ou indirect sur le développement des publics sont identifiées et sont prioritaires. On a établi un tableau de bord de l'abonnement, un portrait d'abord de l'abonnement, par exemple, le nombre d'abonnés hommes, femmes, par groupe d'âge, le nombre de nouveaux abonnements que l'on fait annuellement, le nombre d'abonnés qui sont emprunteurs, le nombre d'abonnés qui sont inactifs, le nombre d'abonnés qui se désabonnent parce qu'on demande une preuve d'adresse à chaque 3 ans. Donc, on a constaté qu'il y avait un taux de désabonnement très important. Si on avait conservé tous nos abonnés, si on les avait fidélisés, on aurait un taux d'abonnement de 60 % de notre population. Donc, développer les publics, ce n'est pas nécessairement aller vers de nouveaux publics, mais c'est de garder les usagers que l'on a, de les fidéliser, d'où l'intérêt pour moi, en tout cas du mot « abonné ». La stratégie doit miser sur la fidélisation des abonnés. On avait aussi beaucoup de dossiers bloqués par nos propres méthodes. Nous-mêmes, les bibliothécaires, on bloque des dossiers. Je ne sais pas si vous faites ça, mais nous, on bloque des dossiers. Si vous avez atteint un taux de frais de retard, on vous bloque. Il y a plein de raisons pour bloquer les gens. Et surtout chez les adolescents, c'était effroyable le taux d'abonnement. Donc, on a fait plein de constats comme ça, de contraintes d'accessibilité qui relevaient même de nous en tant qu'administration ou de la ville, là, avec les... Alors, on a fait aussi des sondages auprès des abonnés, des non-abonnés, des abonnés, des abonnés, enfin, des focus groups, etc., pour se doter finalement d'une stratégie de développement des publics, qui est peut-être un peu simpliste à cette étape-ci, mais on s'est donné une stratégie basée sur certaines catégories de population. Donc, des cibles, combien on voulait rejoindre d'enfants de 0 à 5 ans, de jeunes d'âge scolaire, d'aînés, etc., et on établit les actions les plus pertinentes, selon nous, pour atteindre ces cibles. Alors, quelles sont les retombées de cette vision du développement de la Bibliothèque de Québec à mi-parcours? On est en 2017, ça se termine en 2020. Alors, parmi les villes de 100 000 habitants et plus au Québec, la Bibliothèque de Québec se classe première pour la fréquentation, c'est-à-dire le nombre d'entrées dans chacune des bibliothèques. Nous avons des capteurs électroniques à chaque entrée dans chaque bibliothèque pour capter et quantifier précisément la fréquentation. Nous sommes premiers au Québec pour le prêt de livres numériques et nous sommes troisièmes pour le prêt par habitant. Le taux d'abonnement a augmenté de 16 %. Alors, nécessairement, quand vous avez plus d'abonnés actifs, tous les indicateurs, normalement, devrait être à la hausse. Alors, si on regarde du côté du prêt de documents, ce tableau-là s'arrête en 2015, mais la tendance se continue en 2016. Tous les indicateurs, ou presque, du prêt sont à la hausse. Si on regarde le grand total des prêts en haut, même le prêt de livres est à la hausse, surtout à cause de la littérature jeunesse. Quand il y a un effort collectif dans toute la société, autant du milieu scolaire que de l'ensemble des acteurs, bien, ça a un impact, puis on voit le résultat sur la bibliothèque. Là où on constate une petite baisse, c'est le prêt de livres adultes. Par contre, si on additionnait le prêt numérique, parce que le prêt numérique est beaucoup plus populaire chez les adultes et même chez les aînés, chez nous, que chez les jeunes. Donc, si on additionnait les deux, on aurait à peu près un score, une stabilité dans le prêt adulte. Ce qui est en baisse, c'est le prêt des documents audiovisuels, c'est le disque. Le disque est en perte de vitesse complète, puis nous n'avons pas d'alternative en ce moment pour cette question. Alors, donc, des indicateurs à la hausse d'année en année, on bat nos propres records et cette année encore, ça va être le cas. Quelques réalisations en ce qui concerne l'axe d'offrir des lieux attrayants, comme je vous le disais, avec un budget d'environ 200 000 $ par année. Je ne sais pas au niveau de qu'est-ce que ça représente comme euro, c'est fois 0,75. C'est pas un gros budget quand on a 25 établissements, mais il reste que quand on rafraîchit l'établissement, puis on fait plus de mise en valeur, automatiquement le public est au rendez-vous. Je parlais des actions, des réalisations en ce qui concerne l'actualisation des services. Je vais parler tout à l'heure des heures d'ouverture. Évidemment, c'est la base. Nous avons aménagé 2 Media Labs cette année et nous sommes surpris de constater à quel point s'intéressent non seulement les adolescents, mais également les adultes et les aînés. Nous travaillons beaucoup dans le domaine de la littératie numérique, puisque nos services sont de plus en plus numériques. Alors, nous offrons depuis un an et demi un service d'assistance technologique sur rendez-vous avec un employé de bibliothèque. Pour les fonctions de base, les usagers sont de plus en plus autonomes avec les guichets, ce qui permet de libérer du temps de personnel et d'avoir une valeur ajoutée au chapitre des services et de la littératie numérique. Donc, nos employés se rendent disponibles sur rendez-vous gratuitement auprès des abonnés. Tous les secteurs de périodiques, évidemment, bon, on a installé des tablettes puisque les revues et journaux sont de plus en plus numériques, etc. En ce qui concerne les heures d'ouverture, vous avez en bas la liste des bibliothèques, puis en haut le nombre d'heures par semaine. La norme minimale que nous nous sommes donnée, c'est 47 heures d'ouverture par semaine, c'est-à-dire 7 heures par jour, 7 jours semaine pour les plus petits établissements. Nous n'avons pas encore atteint la cible, mais on voit qu'on dépasse la cible dans la majorité des bibliothèques. Ça va jusqu'à 83 heures d'ouverture par semaine à Gabriel-Leroy. Comment on a pu faire ça? On a parlé du financement ce matin. Comment bonifier les services alors que les ressources financières n'évoluent pas toujours à la hauteur? Notre stratégie, ça a été d'implanter les guichets RFID, les guichets de prêt, et nous avons donné une cible à atteindre pour l'autonomie de l'usager, à savoir 60 % des prêts devaient se faire en autonomie, puis là, on monte graduellement jusqu'à 80 % des prêts. Donc, on a gardé tout notre personnel, mais leur tâche a évolué, on l'a vu, ils sont là beaucoup plus pour aider les gens, accompagner les gens, faire de l'assistance technologique, mais on a redéployé le personnel pour augmenter de façon importante les heures d'ouverture sans budget additionnel. Nous avons aussi des tableaux de bord pour le contrôle de l'efficience pour chacune des bibliothèques. Nous avons un comptable dans notre administration qui est en charge du contrôle de la performance et de l'efficience. Et nous contrôlons des indicateurs comme le nombre de prêts par heure de travail, le nombre d'heures de travail par heure d'ouverture, etc. Donc, ce qui nous permet aussi de voir à maximiser les ressources pour chacune des bibliothèques. Si une bibliothèque dans un milieu semblable avec la même taille a plus d'employés que les autres bibliothèques, bien, on va lui demander de revoir l'horaire de travail du personnel pour augmenter les heures d'ouverture. Dans le domaine de la promotion de la lecture et des bibliothèques, dès l'adoption de la vision du développement en 2013, un plan de communication avec 5 axes ont été adoptés de concert avec les bibliothécaires et les professionnels du service des communications de la Ville de Québec. Donc, ça fait suite à divers sondages, j'en ai parlé tout à l'heure. Notre approche, c'est vraiment une stratégie marketing. Donc, on inspiré de notre stratégie de développement de public, on se donne des cibles et des outils pour rejoindre, faire connaître nos services en ayant un discours qui colle aux besoins des catégories de population que l'on vise. Alors, on mène des campagnes d'abonnement très systématiques parce que chez nous, en France, les écoles n'ont aucun rapport avec les municipalités. On est dans 2 silos complètement indépendants les uns des autres. Alors, notre ambition, c'est que 100 % des jeunes d'âge scolaire aient une carte de bibliothèque publique. Et donc, ça, on travaille très, très fort à ce niveau-là. On a aussi instauré des programmes de lecture universels dans le réseau. Ça, c'est un des bienfaits de la fusion municipale et de la mise en réseau, c'est l'équité dans l'accès. Donc, toutes les bibliothèques ont l'obligation d'offrir, évidemment, des services d'éveil à la lecture proportionnellement au nombre d'enfants de 0 à 5 ans dans leur milieu. Toutes les bibliothèques doivent offrir les clubs de lecture d'été, etc. Ce qu'on a fait aussi d'assez important, selon moi, à ce chapitre-là, dans cet axe de développement de la promotion, c'est de prendre en charge dans notre organisation de la fonction professionnelle du développement des publics. On développe nos collections, on développe nos services, mais il faut développer nos publics à la base. Et c'est du travail. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas une retombée. Il faut être stratégique dans cette façon de faire-là. Et pour moi, ça fait partie de la fonction du ou de la bibliothécaire, Donc, on a créé une fonction de direction pour montrer l'importance que ça a dans notre organisation de développement des publics. Et nous avons créé un poste qui va être inauguré en novembre de responsable de ce service du développement de public, qui va être en charge aussi de l'action hors les murs. Et dans chaque groupe de bibliothèque, il y a un bibliothécaire qui a cette fonction également de développement de public et d'agir localement à ce chapitre. La cinquième grande étape de développement dans notre dispositif de lecture et d'écriture, ça a été la création en 2015 de la Maison de la littérature. Alors, ce projet-là, on l'a rêvé depuis 1999. Alors, quand on fait de la planification, il faut être assez persévérant. Il faut réexpliquer le projet, puis il y a des élections municipales aussi. Il faut réexpliquer, changer notre discours, mais en fait, garder notre idée de ce qu'on veut faire. Et donc, en 2015, on a réussi à ouvrir cette institution unique au Canada, d'après nous, unique dans sa forme et sa vocation. Et tout ça a été planifié. Il y a eu deux documents fondateurs. Il y a eu le programme fonctionnel et technique pour le bâtiment, les espaces de l'institution, et le plan d'affaires ou le plan stratégique qui a déterminé la mission, les orientations, les clientèles cibles, les partenaires, les modalités de fonctionnement, les politiques internes, le budget, le financement, etc. Donc, ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et voici qu'elle existe, cette bibliothèque-là. C'est pas une bibliothèque, c'est un lieu de création et de diffusion en art littéraire. Donc, elle a la particularité vraiment formellement de servir les intérêts du milieu professionnel littéraire avec toutes sortes d'espaces de création, studios d'enregistrement, studios de répétition, résidences d'écrivains, etc. J'en viens maintenant, je m'excuse, ça va vite, à nos grands projets d'avenir. Le premier, c'est la bibliothèque Gabriel Roy, construite, comme je vous le disais, en 83. C'est un projet de 27 millions d'euros qui nécessitera 2 ans de travaux. On va passer de 8 300 mètres carrés à 11 000 mètres carrés. Donc, l'agrandissement touche essentiellement les espaces qui seront dédiés à la rencontre, à la créativité, à la diffusion. Les collections ne vont pas augmenter. Mais ce sont vraiment... Et toutes les collections vont être organisées autour de 9 foyers thématiques. Et tout comme à la Maison de la littérature, on va inviter des organismes du milieu à participer activement à la programmation pour en faire effectivement une bibliothèque très, très participative. Autre chantier de développement dans nos projets d'avenir, le développement organisationnel. Évidemment, on ne peut pas faire évoluer notre institution si, à l'intérieur, les valeurs que l'on veut communiquer dans la population ne sont pas vécues au quotidien avec nos équipes et dans nos relations avec les partenaires. Donc, on fait beaucoup de changements, on est dans des restructurations présentement, et l'objectif, c'est de développer la flexibilité dans la gestion, autant que dans les espaces que l'on aménage dans les bibliothèques. Donc, l'agilité et la flexibilité sont les deux mots-clés de notre organisation. Autre projet très rapidement d'avenir pour nous, nous avons déposé la candidature de la Ville de Québec dans le réseau UNESCO des villes créatives dans le domaine de la littérature. Pourquoi on fait ça? Bon, c'est sûr que l'idée, c'est d'aller chercher un levier additionnel vis-à-vis les pouvoirs publics, contribuer au rayonnement de la ville, on l'a dit, comme on se pose toujours la question, comment on peut être un outil de développement pour le citoyen, mais aussi pour notre ville. Et la ville a entériné cette idée que nous avons eue de nous inscrire dans un réseau international d'innovation dans le domaine de la lecture et de l'écriture. La réponse nous sera rendue le 31 octobre prochain. Donc, on est en attente de ça. Dernier grand projet, évidemment, le projet de la littératie, les compétences en lecture. J'en ai parlé au tout début, l'éducation de base, c'est fondamental. Nous, au Québec, le gouvernement vient d'adopter une politique sur la réussite éducative. Donc, c'est vraiment mené par le ministère de l'Éducation. Et malheureusement, contrairement ici où le plan lecture est développé en partenariat entre le ministère de l'Éducation et de la Culture, nous, c'est le ministère de l'Éducation qui a la responsabilité de la littératie. Et pour une fois, pour la première fois de notre histoire, le gouvernement se donne un objectif, même une cible d'augmentation des compétences en littératie chez les adultes. Nous n'avons pas de plan gouvernemental, de stratégie gouvernementale pour aller vers, pour tendre vers, vers l'atteinte de cette cible. Par contre, nous, au niveau associatif, je suis vice-présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, nous sommes à travailler avec un groupe de chercheurs parce que nous développons de plus en plus nos programmes avec des chercheurs qui vont documenter la démarche, qui vont nous assurer de nous fournir les données probantes pour mener les actions les plus pertinentes pour développer la littératie et la motivation à lire dans la population. Donc, notre association est en train de travailler sur une stratégie nationale de littératie familiale avec des centres de recherche universitaires ainsi que des partenaires communautaires et également des partenaires dans le domaine de la santé. Le guide de survie, je pense que je vais passer assez rapidement parce que je vais avoir l'humilité de comprendre que la bibliothèque n'est pas une fin en soi. On l'a dit largement ce matin, je suis tout à fait d'accord. Les bibliothécaires, on en a parlé aussi ce matin, on doit assumer un leadership, développer une vision, la communiquer, s'inspirer de la vision des autres, etc., être sensible et rassembleur, et faire confiance aux jeunes. Et quand j'ai écrit ça, les préparer à prendre les commandes, mais dans nos deux pays, les jeunes sont déjà aux commandes des plus hautes instances. Alors, dans nos organisations, on doit aussi également donner une place importante pour les jeunes si on veut avoir une vision d'avenir. Le mot de la fin revient à Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci.
Merci. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très, très riche et de nous avoir résumé aussi l'histoire, comment vous en êtes arrivée là. Et je pense que beaucoup de ce que nous a dit Marie résonnait par rapport à ce matin. Je ne vais pas parler longuement, parce que je voudrais vous donner le temps de une ou deux questions. On est un peu serré par le temps, mais s'il y a une ou deux questions dans la salle, on les prendra avec plaisir et après on ira se promener en Norvège. Est-ce que vous avez des questions devant cette présentation ? Alors, Marine, je te passe le micro.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous demander de revenir sur le principe de flexibilité que vous avez évoqué. Qu'est-ce qu'il y a sous ce mot-là ?
D'abord, la flexibilité des espaces. On en a parlé ce matin. On ne sait pas ce qui vient dans l'avenir. Donc, même si on développe des programmes fonctionnels et techniques, celui de Gabriel Roy, 400 pages, donc des programmes très détaillés, mais il reste que la flexibilité des espaces, c'est très important pour permettre à nos lieux d'évoluer, donc d'éviter des cloisons, etc., ce genre de choses-là. Du côté des ressources humaines et de l'organisation, les conventions collectives doivent nous permettre de demeurer flexibles. On ne doit pas enchâsser dans une convention collective, par exemple, les horaires de travail. Enfin, nous, c'est notre prétention. Dans notre organisation, c'est un principe sacré parce que, justement, les besoins changent et on doit avoir cette flexibilité. On est ouvert 7 jours sur 7 et puis c'est un exemple de flexibilité là, qu'on retrouve dans notre organisation.
D'autres questions? Philippe?
Est-ce que vous pourriez revenir juste 2 minutes sur votre guide de survie et aussi sur la manière dont vous pouvez connaître le nombre d'adultes en difficulté de lecture?
Je m'excuse, je n'ai pas compris.
Les 5 points, le plan national des 5 points d'adultes pour développer des compétences en littératie. Comment vous avez ces éléments?
On veut agir dans la pérennité, dans le long terme, et on a choisi, nous, les bibliothèques publiques du Québec, de développer la littératie familiale. Donc, d'avoir une approche non seulement auprès des jeunes en petite enfance, mais une approche qui concerne tous les membres de la famille. Et cette stratégie-là vise à recommander aux bibliothèques publiques non seulement une boîte à outils, mais des mesures qui ont été documentées par la recherche et donc de réunir toute la littérature professionnelle et de recommander des façons de faire avec les critères de performance. Et donc, nous, on travaille beaucoup, beaucoup au Québec avec le mouvement associatif. On travaille beaucoup, beaucoup en coopération à l'échelle nationale. Et on a décidé de miser sur cette stratégie de littératie familiale qui a été soutenue pour un avant-projet par le ministère de l'Éducation. C'est la première fois que les bibliothèques publiques au Québec reçoivent un financement du ministère de l'Éducation en tant que partenaire de l'éducation. C'est la première fois qu'on nous reconnaît comme des partenaires de l'éducation en tant que bibliothèque publique. C'est quand même assez extraordinaire quand même.
Oui, moi j'étais frappé par l'importance donnée à l'intervention des bénévoles dans votre organisation. Et en fait, je voudrais savoir comment vous les insérez ou comment ils s'insèrent dans l'organisation générale et jusqu'à quel niveau de responsabilité vous leur donnez, comment ça fonctionne en fait à l'interface entre les professionnels et entre la profession, comme disait... Oui. et les bénévoles.
C'est ça. C'est sûr que les tâches sont protégées par les conventions collectives, donc les bénévoles ne peuvent pas accomplir les tâches du personnel. Il faut absolument que ce soit une valeur ajoutée, des tâches qu'on ne peut pas faire par manque de ressources ou autres, ou compétences tout simplement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on développe des programmes pour aller justement auprès des clientèles ou de donner un accompagnement un peu plus poussé. Donc, on offre le programme Lire et faire lire dans les écoles. Alors, ça se passe à l'extérieur de la bibliothèque, sauf que nous, on aide les bénévoles au recrutement des bénévoles, à la formation, etc. On a aussi un programme. Pour nous, le bénévolat, c'est une forme de service aux citoyens. Parce que c'est un besoin qui nous a été exprimé. Je veux m'impliquer dans ma communauté et j'aime la mission de la bibliothèque, de la lecture, de l'éducation, de la culture. Pourriez-vous me faire une place? Alors ça, c'est un besoin très clairement exprimé dans la communauté. Alors, on répond à un besoin de la communauté. L'idée, ce n'est pas d'économiser et de au niveau du fonctionnement. Ce n'est vraiment pas ça. Alors, par exemple, quand on offre, on va développer justement au niveau national le programme Génération branchée, on va jumeler des adolescents avec des aînés pour l'apprentissage des technologies. Bien, pour nous, c'est une façon de servir à la fois les adolescents et les aînés à travers un programme de la bibliothèque. Et ça ne nous pose pas nécessairement de problème du point de vue syndical parce que, justement, les choses sont quand même très, très claires, là.
Juste pour préciser, donc, quand vous dites que, par exemple, vous animez ce projet Génération branchée, c'est la bibliothèque qui s'occupe de mettre en relation les aînés. Vous ne le confiez pas à une association. Parfois, vous organisez vous-même ce bénévolat.
D'accord. Oui.
Merci.
Une question dans le prolongement du rôle des bénévoles. Vous avez annoncé 300 personnes dans le réseau des bibliothèques pour 25 bibliothèques. Comment s'organise le service public dans la bibliothèque qui est ouverte 80 heures par semaine et comment ça s'organise dans une bibliothèque qui, puisque j'ai vu que vous avez pas mal de bibliothèques ouvertes 50 heures, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre mode d'organisation et d'ouverture au public?
Oui. Ben d'abord, les bibliothèques, les bénévoles ne sont pas liés aux heures d'ouverture. Hein. C'est vraiment lié au travail de ce que vous appelez les agents. Nous, on les appelle les commis de bibliothèque. Alors, pour ouvrir 7 jours sur 7, de 50 à 80 heures, ça prend du personnel à temps plein, ça prend du personnel à temps partiel, du personnel pour remplacer lorsque les gens s'absentent, etc. Donc, il y a toute une organisation. On a organisé des groupes de bibliothèques. Et les personnes sont invitées, obligées même, de travailler habituellement dans deux bibliothèques différentes pour pouvoir faire des remplacements aux besoins. Alors, il y a toute une logistique, on a un logiciel pour faire les horaires, les remplacements, c'est quand même assez complexe, mais ça fonctionne assez bien. On arrive à ouvrir nos bibliothèques, disons que c'est beaucoup de travail, là. Mais le personnel est relativement polyvalent. Ça, c'est absolument... On parlait de flexibilité tout à l'heure. La polyvalence du personnel, c'est un élément central de la flexibilité dans nos services.
Pour être un tout petit peu plus précise sur une bibliothèque qui ouvre 80 heures par semaine, elle ouvre avec combien de personnes et pour combien de mètres carrés Tout simplement parce qu'une ouverture 7 jours sur 7, c'est quasi inexistant en France, même dans les bibliothèques universitaires. Et 300 personnes pour faire fonctionner un réseau de 25 bibliothèques, c'est aussi inexistant en France. Donc je me permets d'insister un tout petit peu, parce que je sais. Enfin, voilà.
Bon, à la bibliothèque Gabrielle Leroy, on est ouvert 83 heures par semaine. On a environ 50 agents, 50 commis pour opérer cette bibliothèque-là de 8000 mètres carrés environ. Et nous avons une équipe de gestion d'environ 5 personnes. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont centralisées, qui ne se passent pas au niveau du service à la clientèle. Par exemple, bon, le traitement documentaire est centralisé. Il y a plein de tâches qui ne relèvent pas du service de première ligne à la bibliothèque. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, le minimum d'employés pour ouvrir une bibliothèque, c'est 2 dans les tout petits établissements. Et ça va jusqu'à 15 personnes en même temps pour Gabrielle Leroy, la plus grande bibliothèque sur le plancher.
8 000 mètres carrés, c'est ça?
Pardon?
Pour 8 000 mètres carrés.
Pour
8 000.
Oui, c'est ça, 8 000 mètres carrés. On n'est pas beaucoup.
On est assez d'accord avec vous, Marie. Après, je pense que bon, on va devoir peut-être prendre une dernière question, mais Marie a évoqué, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Peut-être qu'on vous demandera ou qu'on mettra des liens sur le compte-rendu de ces journées, si vous avez des modèles d'organisation. Voilà. Marie a parlé du fait qu'on séparait le service au public et qu'on centralisait les traitements, etc. Donc je pense que là aussi, il y a certainement une clé. Je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas faites par les gens qui ouvrent les bibliothèques, quoi.
Comme par exemple, la sélection des documents est centralisée. On a 12 sélectionneurs qui font les acquisitions pour les 25 bibliothèques.
Donc, je redis, 12 sélectionneurs qui font les acquisitions pour 25 bibliothèques.
Et qui choisissent 90 000 documents par année.
Voilà. Je livre ça à votre réflexion. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on parte?
Bonjour, Cécile Auzère, bureau du livre pour le département de la Seine-Saint-Denis. Vous nous avez présenté la vision du développement donc pour la Bibliothèque de Québec 2013-2020. Pouvez-vous nous dire qui a contribué à l'écriture du projet, à la réflexion, y compris au niveau des élus? Comment vous avez suscité aussi l'adhésion ou pas des équipes, si vous avez dû travailler cette question-là? Et est-ce que, vous avez parlé d'équipement inclusif, etc., est-ce que vous y avez aussi associé la population?
Associé la?
La population, les habitants.
D'accord. OK. Alors, au départ, la commande venait de la Ville de Québec. On voulait se doter d'un plan directeur. On a écrit 25 versions et finalement, la Ville de Québec a décidé que non, il n'y aurait pas de nouveau plan directeur, qu'on allait adopter la formule d'une vision de développement qui était la première de plusieurs autres visions du développement adoptées par la Ville. Par exemple, on a une vision du développement social, etc. Puis, effectivement, les bibliothèques s'inscrivent un peu partout dans ces visions-là. C'est le service de la culture de la Ville de Québec qui a eu le mandat de rédiger le texte, et ça s'est fait avec nous, avec les bibliothécaires de l'Institut canadien de Québec. Donc, on a fait un travail vraiment à quatre mains, disons. Et ensuite, ça a été présenté à l'élu, et qui a fait certaines modifications, mais il reste que globalement, ça a été écrit par les professionnels. Et à cette époque-là, la population n'a pas été consultée sur cette vision. La Ville voulait développer sa vision. C'était le choix des élus à ce moment-là.
J'insiste un tout petit peu, mais est-ce qu'il y a eu une adhésion naturelle des équipes au projet, une adhésion immédiate? Ou est-ce que vous aviez dû travailler aussi cette question-là?
On peut dire qu'il y a beaucoup d'objectifs. Je ne dis pas que c'est des vœux pieux, parce qu'il y a quand même des ressources là, financières qui sont venues avec la vision. Mais on ne peut pas être contre développer la bibliothèque. On n'est pas vraiment au niveau des moyens, puis de l'organisation du travail, de l'impact et tout ça. La seule chose qui a un petit peu accroché, c'est qu'on manque de bibliothécaires professionnels là, qui sont formés à l'université, et la commande qu'on avait, c'est d'augmenter le nombre de bibliothécaires par des mesures d'efficience à l'interne. Donc là, ça a été tout un défi. On n'a pas réussi à atteindre le nombre de bibliothécaires requis. Là, ça, à un moment donné, quand on n'a pas de personnel, on ne peut pas vraiment... Alors, le personnel a vraiment bien adhéré, mais on a fait tout un plan de communication interne autour de la vision pour le présenter à l'équipe, présenter le troisième lieu, vers où s'en vont les bibliothèques. Il y a eu un documentaire aussi qui a été tourné, faire des discussions avec le personnel, et puis ça a très bien été.
Donc, je vais arrêter. Merci beaucoup. Je vous demande de remercier encore Marie qui nous a fait une présentation vraiment complète.